Oui, non, mais ça.
Et on a une régression à tous les niveaux, pas seulement, enfin, à tous les niveaux du droit du travail.
Non, mais que, effectivement, je veux dire, c'est-à-dire le capitalisme moderne, c'est-à-dire la génération qu'on a connue pendant ces 20 ans est arrivée à détruire tous ces espaces, on comprend bien. Mais le problème, c'est que je ne crois pas que ce processus a pu se mettre en place sans une partie des salariés. Bah, et des autres, hein, ils sont entrés dans cette. Et d'abord, les cadres, je pense que ce sont les premières à introduire la logique qui est derrière. Voilà. C'est-à-dire, non, je sais, mais la nouveauté, c'est qu'effectivement, c'est-à-dire, aujourd'hui, effectivement, la situation, il s'est massifié. D'accord? Et effectivement, c'est-à-dire, cette réflexion sur la souffrance, c'est qu'effectivement, comprendre ce processus et arriver à la fin. Parce que l'intérêt, entre guillemets, hein, je veux dire, cette expression d'intérêt et cette chose, effectivement, c'est pas que avant on n'avait pas ces phénomènes, on connaissait la souffrance, la désorganisation, mais c'est que maintenant il est massifié, c'est pas simplement un lieu, quelques lieux, c'est-à-dire c'est généralisé. Et moi j'insiste à dire que malgré ça, il y a des lieux de résistance, c'est-à-dire il y a des lignes de fumée, il y a de. Alors, la question, quand je te disais tout à l'heure, est-ce que tu peux l'identifier dans ton entreprise? Est-ce que tu peux dire qu'il y a une prise de conscience? Il y a, par exemple, ce discours que faisait Carlo sur la revendication de l'éthique, c'est-à-dire de reprendre main sur la dignité du travail ou ses solidarités, ou ça, c'est construit ailleurs.
Je pense que c'est pas possible.
Très individuel.
Moi, je pense
les réactions sont très individuelles.
Aujourd'hui, on est plus dans des logiques de retrait. Les gens, ils vont faire le minimum. Ils vont rentrer chez eux plus tôt.
Ça.
Ils vont rentrer chez eux plus tôt. Profiter justement de leurs 35 heures tant qu'on en a encore. et ça va être des logiques de retrait. Ou alors les gens, ils vont.
Ou alors
ce qu'on a aussi chez nous, hein, parce qu'on n'a pas de limitation sur Internet, vous allez avoir des gens qui vont pendant une heure ou deux jouer sur Internet.
Pendant les travaux.
Oui.
Ça, on contrôle pas.
Ben non, chez nous, c'est contrôlé. Chez nous, non. Parce que, de fait, de notre métier, ils peuvent pas nous brider. Enfin, c'est difficile de nous brider.
Parce que,
Vous avez trouvé, par exemple, chez France Télécom, on avait autrefois des poules, souvent le vendredi. Enfin, c'était pas forcément, mais souvent on faisait des pots. Il n'y a plus de lieu de.
Mais la capsule à midi, qu'est-ce que vous faites? Vous allez manger ensemble?
À la cantine.
Vous faites pas petit groupe, ou par proximité, mais.
Oh, des fois il y a des tablés quand même.
Oui, sur les projets, il peut y avoir des tablés, mais moi je trouve que c'est vrai que les jeunes, ils ont plus de par rapport à la souffrance, ils ont plus de ressources que la personne qui est déjà âgée, qui a la famille, qui a les dettes, etc., etc., et qui peut se retrouver avec un gouffre devant, dans sa place, les jeunes, ils arrivent grosso modo à se faire. Mais en même temps, je ne suis pas convaincu qu'ils soient très heureux dans leur travail, je veux dire. C'est aujourd'hui. Ils sentent carrément aussi la menace de l'Inde. Hein. La menace de l'Inde, c'est-à-dire, je pense qu'il y a en partie, dans tout ce qu'on a dit, même dans les espaces, etc., notamment pour ceux qui dégagent chez nous, chez eux, c'est différent, l'effet qu'on sait très bien que 20 000 personnes, ça c'est une caractéristique de notre entreprise, mais je pense qu'il y a des choses semblables dans d'autres, l'Inde, de ces deux îles, aux États-Unis ou en Angleterre. Il y a 20 000 personnes en France, il y a 21 000 personnes en Inde. D'ailleurs, le marketing, il a mis sur les médias le fait que finalement, Catherine est la plus indienne comme une chose positive, n'est-ce pas, que les Français. Et je ne suis pas convaincu du tout qu'il, surtout dans une période comme celui-là, il y a eu du travail pour 20 000 personnes en France. Donc, l'éloignement, les espaces réduits, la pression qui descend vers les bas par les contrôles financiers, etc., ça c'est un point très important qui est sorti. À mon avis, c'est quelque chose qui rend la vie des jeunes, aussi des jeunes. Moi j'ai un exemple qui m'est arrivé récemment. dans la petite équipe qui fait la mobilité, je fais de l'avant-vente, moi, je suis plus chef de projet, mais je les vois, et en plus je vais les voir, parce que j'ai envie de les voir assez souvent, je vais voir l'équipe projet, et alors tout ce que je vois, c'est que par exemple, on m'a signalé à un qui m'a dit, ah celui-là, c'est le cadre de la mobilité, c'est les plus bons, etc. Et on m'a dit, il va t'aider dans une circonstance particulière, il va t'aider à faire cette avant-vente où on a besoin d'une partie technique, etc., etc. Et bien, et on m'avait dit que c'était entre les jeunes les meilleurs de tous. Et bon, vous savez, il m'a pas dit tout. Un jour, parce qu'il avait une autre chose à faire, un autre jour, etc., etc. Et moi, je ne comprenais pas du tout. C'est-à-dire qu'on lui avait demandé, en réalité, c'était une demi-journée, et il a refusé de faire. Il n'a pas fait la demi-journée dans les temps. Et moi, je ne comprenais pas, parce que je savais qu'il était bon et tout. Et après, on m'a dit, mais tu sais, il y a une entretien carrière avec lequel son chef l'a cassé, et donc, sa réaction, c'est là. Donc, c'est quand même les meilleurs, aujourd'hui, on ne les retient pas vraiment. C'est-à-dire, on les trois années à la place, ça ira d'une autre façon, mais ça ira.
Il y a un processus, et ça, c'est aussi vrai dans toutes les... Il y a un processus organisé, complètement organisé, pour déqualifier les gens, pour les dévaloriser. C'est-à-dire, même des gens qui se sont vraiment défoncés, etc. Alors, nous, on a un cas encore plus grave, hein, c'est qu'un collègue qui s'est défoncé sur un projet s'est retrouvé avec un accident cardiaque.
La boutade, je l'ai raconté, tu prends les projets trop à cœur.
Et ça a marqué. Non seulement elle a saqué au niveau de la note, j'ai pris le compte rendu d'entretien, je l'ai balancé sur le bureau du DRH, je lui ai dit tu fais quelque chose, on vous poursuit pour harcèlement moral. Parce que là, j'ai tous les éléments pour faire un procès.
Et il y a jamais eu des agressions au DRH
Physique, non.
Non. Bon, le nouveau, il vient d'arriver.
C'est le DRH, actuellement, c'est l'espèce de...
Comme dans les usines, tu veux dire.
Non, en fait...
Il
n'y a pas d'expression de colère. On n'a pas ça. Alors, par contre, effectivement, on n'a pas d'expression de colère, d'expression...
Mais parce que n'est pas la relation, c'est pas la même.
Non.
C'est-à-dire que, je peux dire, tamponner dans différents éléments. Par exemple, le DRH, c'est un couillon. Dans la réalité, le DRH fait partie des membres de la direction d'entreprise, mais les exécute les ordres. Avant, il avait vraiment un rôle. Maintenant, par exemple, si tu vas sur les revues du DRH, ou des trucs comme ça, tu parles avec le DRH à un certain niveau, par exemple, il y a la crise complète de ça, parce qu'avant, il mangeait, etc., que toute la partie, tout le discours sur le capital humain, etc. Maintenant, c'est vraiment des exécuteurs de notre société, avec des techniques de merde en plus, parce que. Oui, mais je crois que les gens le perçoivent, évidemment, comme un casse-couille, mais comme un salopard, quelquefois, mais qu'au fond, c'est un cadeau
commun.
Moi, j'ai l'impression, quand même, et ça, c'est quelque chose qui est très fort, très, très, très fort, que les gens, ils pensent, les jeunes, mais je parle jusqu'à 35 ans, peut-être, au moins 35 ans, ils pensent que la normalité, c'est celle-là. Il faut considérer, par rapport, je dis, à ceux d'entre nous qui sont un peu plus seniors, et que le monde a été toujours comme ça, que ce type de comportement, c'est la normalité, et que le fait qu'on cherche à te faire des choses plus ou moins terribles, de mettre la pression, etc., etc., c'est plus ou moins normal, et qu'il faut se défendre, et que c'est la défense, c'est complètement individuel. Et ça arrive dans ceux qui sont un peu plus évolués, je pense par exemple au commercial qui travaille avec moi, qui est quand même quelqu'un intellectuellement de haut niveau, il pense que c'est la nature humaine. La nature humaine est comme ça. Et donc, elle est égoïste, elle est individualiste, et donc qu'il n'y a rien à faire et qu'il n'y aura rien de mieux.
Non, mais c'est quand même aussi le résultat de toute la compétition qu'ils ont vécue dans leurs écoles d'ingénieurs, hein. Il ne faut pas l'oublier. Les classes préparatoires, on est en compétition en permanence, hein, les uns contre les autres. Après, c'est les classements dans les écoles, etc. Alors, après, il y a plus ou moins selon les écoles.
Ils sont formatés.
Ils sont formatés, hein, c'est clair. Et donc, ce formatage ne favorise pas le travail collectif.
Il n'y a que les moments des luttes, j'ai l'impression qu'ils créent peut-être, ils peuvent créer cette étincelle. Autrement, c'est une étincelle qui, au moins chez nous, elle marche complètement.
Par contre, on a quand même, comme disait Bourgeois, un sentiment de, ils ont pratiquement tous un sentiment de frustration.
Ouais.
C'est le sentiment de pas être, qu'on leur donne pas un travail à hauteur de leurs valeurs ou à hauteur de leurs compétences. Parce que justement, il y a cette atomisation du travail, et qu'effectivement, il y a le fait de n'avoir pas la vision finale de ce qu'ils font. De savoir où on va, et finalement c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui l'ai livré, c'est moi qui l'ai vendu au client, etc. Ils n'ont pas la satisfaction du produit fini.
Il y a
l'anonymat et l'atomisation qui fait que...
À
travers le découpage des projets, le découpage à la fois en séquence et en spatial et en temporel. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, comment on est... Enfin, dans nos métiers, maintenant ça dépend des entreprises, on est sur des projets qui sont relativement longs. C'est-à-dire qu'entre le début d'un projet et la livraison, des fois, c'est 20, 30 personnes. Hein, ça peut durer 2 ans jusqu'à ce qu'on livre quelque chose d'utilisable au client. Hein. Des fois, ça dure 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Donc au final, pendant ces 2 ans, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, donc il y a un turnover dans l'équipe. Quoi. Et donc ça aussi, ça me
fatigue pas. Mais quand à la fin, on récompose tous ces blocs de savoir qu'on a mis ensemble...
Autrefois, il y a des
il n'y a pas une
on ne fait plus les fonds.
Des mois à mois, parce que...
Avant, il y avait les taux de livraison. On faisait un taux quand il y avait la livraison.
Il y avait des chantiers.
Il
y avait des choses comme ça. Il y en a des mois à mois, parce que, il faut le dire aussi, il y a de plus en plus de projets en crise. Donc, les projets qui ne garantissent pas les 10% de marge, ou qui sont clairement en rouge, etc., etc. Parce que ça, c'est le contexte dans lequel...
Parce que ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'à force de vouloir vendre des trucs de moins en moins cher, c'est qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à respecter les délais.
On fait passer la pression vers le bas, parce que c'est le chef de projet qui, normalement, il peut avoir de 27 à 35 ans.
Oui, ça est possible à condition
qu'il n'arrive pas.
C'est-à-dire que les autres ne peuvent pas faire jouer la concurrence. C'est-à-dire
si la concurrence joue, quand même, c'est celui qui vendra le moins cher, en fait.
Tout à fait, mais comme tu considères que cette rentabilisation des projets est, c'est-à-dire qu'il se base sur une réduction de la qualité, c'est ça que je veux dire.
Si tu baisses, un autre concurrent peut intervenir.
Non, la qualité, mais il y a aussi des prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la journée de l'ingénieur indienne et l'Indien est vendue à 250 euros ou 200 euros, tandis que la journée de l'ingénieur français, moins de 350, ce n'est pas rentable. Donc, je veux surtout beaucoup, par exemple, pour ce qui regarde notre secteur qui est le plus en crise de tous les secteurs, de tous les secteurs à l'intérieur de la multinationale, c'est le télécom qui est le plus en crise, beaucoup est dû à ce qui est le comportement de France Télécom. C'est France Télécom, il a appliqué la même logique qu'il applique à ses salariés, à ses fournisseurs aussi, en faisant des enchères à la baisse depuis 4 ans. La journée, la journée d'ingénieur. Donc tout ça, c'est la qualité part, les journées...
Et puis la philosophie du mois 10 ans, est pour la qualité.
Et en plus de tout ça, l'entreprise pour chercher de toute façon à faire du chiffre d'affaires, etc., il fait aussi des remises, on met des gens qui n'ont pas toujours toutes les compétences pour faire l'évaluation de combien ça coûte un projet, et de toute façon, après, on réfie le chef de projet, etc., etc. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Ça, c'est la chaîne et la logique. Donc, il y a de plus en plus... Les chefs de projet ne peuvent pas faire des miracles, même s'ils sont énormes. Je vois les chefs de projet, même des gens qui sont des pitbulls, sont prêts à tuer les clients, c'est une demande de jour à plus. Donc, j'imagine la relation avec les clients. Hein. C'est une demande comme ça à plus, sinon ça c'est pas prévu. Donc, ça, c'est un peu le contexte avec les projets en crise, avec donc une situation très morose pour tous les ingénieurs qui participent. Et ça, c'est récent. Hein. Avec des licenciements en plus qui se passent chaque jour. Hein.
Parce que le secteur est complètement, c'est-à-dire, quoi, cette mondialisation. C'est-à-dire, c'est, parce que quand
c'est tu plus fais dans les télécoms, c'est encore plus dans les télécoms qu'ailleurs.
Ouais, c'est-à-dire, c'est, parce que quand tu définis ça, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a ce secteur qui est en train de vraiment achever son bouleversement, soit pour l'externalisation, soit pour se concentrer sur le déniche particulier, ça. Management, mais ça, j'ai l'impression comme si le secteur est complètement
en plein restructuration. Je sais pas, il est en fuite en avant permanent.
D'accord.
C'est une fuite en avant et ce qui fait que il y a un écart énorme entre les objectifs de rentabilité des grands opérateurs et ce qu'ils sont prêts à payer pour avoir quelque chose de qualité. Il suffit de qualité. Enfin, c'est pas qu'ils s'en fichent, ils vont pas le dire comme ça.
Moi, je crois que ça se voit que la qualité n'est pas au rendez-vous.
C'est accessoire.
C'est accessoire. C'est bien quand c'est là, mais c'est sur gâteau, si on veut.
On va toujours les raisons.
Vous voyez un peu la qualité de comment ça marche, les installations Internet, etc. Oui.
Et en plus, on reporte de plus en plus de choses sur le client final. C'est-à-dire qu'avant, c'est comme de devoir s'imprimer sa feuille de paye maintenant, avec la dématérialisation de la feuille de paye. C'est plus votre employeur qui vous l'envoie par la poste, c'est vous qui devez l'imprimer sur votre imprimante personnelle. Quoi. C'est un petit peu, on reporte. On reporte sur l'individu.
Mais on reporte tout. Moi, Free m'a dit, nous, on n'interviendra pas si vous n'allez pas chez un voisin et vous me démontrez effectivement que votre appareil, un voisin qui a Free, et que votre appareil ne marchera pas chez le voisin.